RCF.
Curieux voyageurs, c'est le plaisir chaque année de retrouver des écrivains voyageurs. Ils sont trois et moi j'ai la chance de vous faire découvrir le premier, Fabien Bastide, pour son livre « La deux chevaux vagabonde » aux éditions Transboréales. Fabien, « La deux chevaux vagabonde », c'est l'aventure de trois personnes, si j'ose dire. Vous, Bastien, Coralie, votre compagne, et puis Rustine, la deux chevaux, qui va jouer tout au long du voyage un rôle effectivement très important. En commençant peut-être dédier cet enregistrement à Coralie, on n'en dira pas plus. C'est un voyage que vous avez fait il y a maintenant déjà un certain nombre d'années. Racontez-nous.
Oui, alors le voyage date un petit peu maintenant, mais en fait, c'est un voyage qui a abouti sur des projets qui se sont enchaînés, et beaucoup de projets humains surtout. Donc c'est un voyage qu'on a décidé de faire avec Coralie pour aller découvrir ses racines laotiennes. Donc il y a un certain nombre d'années maintenant, et le fait de continuer à écrire, à faire des films sur ce livre, sur ce voyage, c'est aussi parce que on est resté un petit peu plus longtemps que prévu en Asie, on a eu énormément de projets sur place, et c'est au retour de ce long séjour en Asie et de ce long voyage qu'on a commencé à écrire et à faire des supports pour pouvoir partager cette histoire.
Alors, quand on découvre le livre, quelques chiffres hallucinants, 18 frontières, 35 000 kilomètres, un an et demi de voyage. Vous aviez déjà pas mal voyagé avant de partir, mais au fond, le voyage, c'est partir. Vous saviez le but, la mer de Chine, et puis, eh bien, c'est le voyage.
Oui, c'est une question d'état d'esprit. Je crois qu'il y a mille façons de voyager. Nous, on a toujours un but géographique ou un but autre que géographique, mais en tout cas, ce qui se passe entre le départ et l'arrivée nous reste complètement dans l'ordre de la surprise et de la découverte. Donc en fait, on ne voulait pas trop non plus trop préparer ce voyage. On savait à peu près vers où on allait passer, quels étaient les continents ou les grandes zones qu'on allait devoir traverser pour arriver à notre destination, sans non plus trop prévoir, parce que je pense que c'est, à mon avis, la pire des choses qu'on puisse vivre en voyage, c'est d'avoir trop de sécurité et trop de connaissances sur ce qui va nous arriver. Il faut laisser quand même une latitude à l'imprévu et à la surprise.
Alors, cette deux chevaux, cette Rustine, elle va subir quand même un certain nombre de problèmes, châssis ressoudé, boîte de vitesse bloquée, mais au fond, c'est un très bon ambassadeur, et vous dites, pour voyager, il faut un passeport français, il faut l'envie de partir, et puis ensuite, et ben basta.
Oui, c'est ça. Je dis toujours, il faut l'envie. Effectivement, le passeport, et on a la chance d'avoir un passeport qui permette de voyager, pourvu que ça dure. Et la santé, voilà. C'est, à mon avis, l'argent n'est pas forcément un motif de... Enfin, en tout cas, une raison de rester chez soi. Je pense qu'on peut toujours voyager avec peu d'argent, à condition qu'on reste ouvert aux rencontres, parce que les gens qui sont sur la route aident aussi, et de manière très volontaire, parce que c'est souvent des gens qui ne peuvent pas voyager et qui sont aussi contents que le voyageur de faire des rencontres. Rustine, pour venir à Rustine, oui, sans elle, c'est effectivement un ambassadeur. C'est une voiture qui est emblématique de la France. C'est une voiture c'est une voiture qui est connue dans le monde entier. Donc ça aide aussi. Il y a beaucoup de nostalgie à l'endroit des gens qui nous ont rencontrés à l'égard de cette voiture, parce qu'ils ont connu cette voiture avant. Et c'est une voiture qui est quand même assez rigolote, et ça, c'est un sésame extraordinaire pour les rencontres. Alors ça, on l'a découvert lors de nos premiers voyages en deux chevaux, parce qu'avant ce voyage-là, on a traversé l'Afrique en deux chevaux aussi. Et en fait, on s'est rendu compte, sans trop le vouloir, qu'en fait, cette voiture, qui est entre le vélo et le camping-car, c'est quand même plus proche du vélo même. C'est en fait un très bon moyen de voyager et de faire des rencontres, effectivement.
Alors, elle est aménagée de manière très rustique, hein, avec une planche au-dessus du volant, donc un camping-car, vous dites ça en souriant. Et puis, au cours de ce voyage, vous aviez donc le point de départ Montpellier, un projet aussi de travail, puisque vous êtes ingénieur, votre compagne l'était aussi, et donc un projet que vous avez mené tout au long de ces 18 mois de voyage.
Oui, alors on est parti avec l'idée que on cherchait pas d'alibi. Ça c'est une première chose, on cherchait pas d'alibi parce que on aurait pu, mais c'était pas trop l'idée. Par contre, on s'intéressait quand même pas mal à la question des ressources en eau en particulier, ressources naturelles mais sur ressources en eau en particulier, et on était effectivement engagé là-dedans au niveau professionnel et on s'est dit que ça serait dommage de pas s'intéresser à ce sujet-là alors qu'on allait traverser 18 pays sur plusieurs continents. C'était une occasion inespérée d'aller satisfaire notre curiosité à cet égard-là. On a eu la chance de pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes qui pouvaient nous raconter un petit peu la relation que eux ou leur communauté pouvaient rencontrer avec l'eau, donc au quotidien ou sur des questions de gouvernance, sur des questions d'environnement, sur des questions de très pratico-pratiques de l'usage de l'eau dans les villages, sur l'agriculture ou sur des sujets divers et variés. Et donc on a fait ce projet-là qui a en fait donné lieu à une expo photo qui est très légendée et très documentée grâce à ces relais qu'on a proposé pendant plusieurs mois en Asie et en Europe, traduit en plusieurs langues. Et là, on a fait venir beaucoup de jeunes étudiants et d'élèves sur cette expo pour d'abord se rendre compte de la diversité de notre monde, parce qu'on parle beaucoup des problématiques de l'eau, mais il y a aussi des problématiques diverses, certes, mais aussi des solutions. Et on voulait aussi garder un œil optimiste sur la question de l'eau. Et ça nous a permis aussi de nous apprendre énormément de choses de ce côté-là.
Quand vous êtes parti, il y avait aussi le choix de ne pas avoir de moyens de contact. Mais vous avez fait ce choix. Ça veut dire aussi que la famille tout autour, vos amis, le départ à Montpellier, c'était quand même quelque chose. Vous leur donnez des nouvelles de temps à autre, mais il faut qu'ils aient confiance en vous. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant 18 mois. C'est impressionnant.
Mais non, effectivement, on n'avait pas de téléphone. On avait choisi de ne pas avoir de téléphone, choisi de ne pas avoir Internet. On n'avait pas de GPS, on était avec les cartes comme un... Mais c'était un choix qui n'était pas pour faire une sensation, c'était vraiment pour être, c'était pour la liberté. On voulait être libre et pas être tenu par la technologie, en fait, tout simplement. Et Dieu sait qu'on l'est aujourd'hui. Franchement, c'est de plus en plus compliqué de se détacher de tout ça aujourd'hui, même dans notre vie quotidienne. Et c'est toujours le cas aujourd'hui quand je voyage, quand je continue à voyager sur des grands espaces ou sur du moyen terme ou du long terme. Et la plupart du temps, j'essaie de me détacher de ces moyens de communication, non pas par défi, mais parce que on oublie vite que le vrai sentiment de liberté, on l'a quand on est détaché de tout ça. Et le fait d'être en contact permanent avec un monde qui est à des mi-kilomètres, ça nous coupe de la réalité, ça nous coupe des gens qu'on pourrait rencontrer sans ce matériel-là. Et donc nous, on a vécu dans l'instant présent et dans l'espace, le temps et l'espace du moment. Et ça, c'était extraordinaire et je le souhaite à tous ceux qui veulent réexpérimenter la liberté totale. Mais oui, on a réussi quand même à donner des nouvelles à côté de ça, assez régulières, donc en décalage, parce qu'on donnait des nouvelles...
C'est ça qui fait étrange aujourd'hui, c'est pas l'instantané, c'est aussi typique de votre voyage. On a le temps, il n'y a pas le feu, si j'ose dire.
C'est ça, c'est l'anti-instantané. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a eu des bricoles de santé sur le voyage, les parents, notamment, qui étaient au départ un peu inquiets, évidemment, hein, comme tous parents, ont eu écho de nos mésaventures un mois après avoir solutionné le problème. Donc ça règle aussi un certain nombre de choses.
Alors, dans cette de chevaux, vous avez... progressivement évacuer beaucoup de choses. Il y a une histoire de mal très étonnante que vous avez retrouvée qui est 6 mois plus tard, mais vous avez emporté des bouquins. Et pourtant, les livres, ça pèse. Quelle idée étrange!
Oui. Bon, d'abord, on lisait beaucoup, beaucoup tous les deux. Moi, je suis un gros lecteur.
Nicolas Bouvier, bien sûr, votre père, fondateur, si j'ose dire.
Bien sûr, Nicolas Bouvier, qui, lui, n'était pas dans la malle, mais qui était sur mes genoux en permanence, si je peux m'exprimer ainsi. Mais non, c'est vrai qu'on a, en fait, c'était notre petit caprice à nous. Les livres, on a, en fait, dès l'Italie, on s'est débarrassé d'un certain nombre de matériel de pesait trop lourd pour nous.
C'est pourtant qui semblait utile.
Oui, les roues de secours, par exemple, la tente, ça semblait utile, mais on s'en est quand même débarrassé très vite. Par contre, les livres, jamais. Les livres, on les a renouvelés, on les a échangés, tout ça, mais on a toujours gardé un fond de bibliothèque au fond de notre malle, qui pesait très lourd, effectivement, mais c'était une façon pour nous de justement... En fait, c'était notre seul moyen de enfin, on avait des livres sur les pays qu'on traversait, on avait des livres de lexique aussi pour apprendre la langue, on avait le temps, donc ça nous permettait aussi de pouvoir un petit peu se familiariser avec la langue. Et du coup, c'était extraordinaire de vivre aussi sur le temps de la lecture. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi vite aujourd'hui à l'heure des écrans.
D'où l'intérêt de lire votre livre, La Deux Chevaux Vagabondes.
RCF Saint-Étienne.
Ces pays que vous avez traversés, ils sont marqués par la violence. Vous n'avez pas pu entrer en Birmanie. Il a fallu faire un petit saut de puce et puis elle a pris la mer, votre Rustine. Et puis aussi par le changement rapide. Vous dites, puisque vous êtes resté à l'arrivée au Laos pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, vous avez voulu revenir en disant, au fond, c'est plus le Laos que j'ai connu, que nous avons connu quand nous sommes arrivés. Ça va trop vite. Les Chinois arrivent, les touristes arrivent. Ce sentiment que ça va trop vite et qu'il faut préserver le temps, préserver la culture, préserver les gens.
Oui, alors le Laos fait partie des pays qui évoluent très vite, qui explosent, c'est vrai. Il y a une croissance proche de 8% aujourd'hui. C'est quand même un des pays qui se développent le plus vite aujourd'hui dans le monde. Mais c'est aussi parce que il y a une trentaine d'années, le Laos faisait figure de Moyen-Âge, hein, entre guillemets, au milieu de ses voisins qui sont développés depuis une cinquantaine d'années. Et en fait, je rentre pas dans le débat, évidemment, que c'est un pays qui doit avancer comme tout le monde. Je souhaite pas au Laos de... juste pour la carte postale que les Occidentaux veulent avoir. Non, bien sûr que non. Par contre, l'avancée du Laos aujourd'hui est quand même plus basée sur l'expansion chinoise que pour les bénéfices laotiens. C'est un petit peu ça qui me pose plus problème. Ceci étant dit, moi j'y retourne tous les 2-3 mois encore aujourd'hui.
Professionnellement.
Pour le travail, donc je vois très bien toujours l'évolution. Je travaille toujours avec les Laos qui m'expliquent comment ils ont vu l'arrivée du train chinois et l'explosion de leur pays. Ils étaient assez enthousiastes il y a quelques années quand le train est arrivé. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Bon, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Mais c'est un tout petit pays avec très peu de monde qui est accolé à la Chine, qui a besoin d'espace, de ressources et de femmes. Donc forcément, il va y avoir, la nature ayant horreur du vide, il va y avoir une aspiration au Laos, qu'on le veuille ou non.
Et pendant votre voyage, il y a une partie très importante en Inde. Vous y étiez déjà allé, vous y aviez déjà vécu, vous aviez déjà des amis, des points de rencontre, vous prenez le train, enfin...
Alors l'Inde, c'est vrai que c'est un pays... Alors, il faut savoir... Ah ouais, moi, je suis un amoureux de l'Inde. C'est aussi parce que mon premier grand voyage, quand j'étais tout jeune, ça a été l'Inde tout seul, longtemps, pendant presque 6 mois, pratiquement. Et donc, ça a été le voyage initiatique. Alors, déjà un voyage initiatique à 17-18 ans, c'est déjà fort. Mais alors, le faire en Inde... Comme on dit, hein, en Inde, soit on l'aime, soit on déteste. Hein, mais c'est un pays qui est déconcertant, dans tous les cas. Plus on a l'impression de connaître, de comprendre ce pays, moins on comprend. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai noirci des pages qui sont dans des cartons, que j'ai jamais trop relus d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a matière à écrire sur ce pays-là. Et c'est vrai qu'on était ravis de pouvoir retourner au Laos, en Inde, d'autant plus que nos amis indiennes, qui sont nos sœurs, nous attendaient pas. Et on est arrivé en Inde, pardon, chez elles, à taper à leur porte, en 2 chevaux, alors qu'elles s'attendaient pas du tout à ce que ni qu'on soit là, ni qu'on soit venu par la terre. Et c'est nos amis qui étaient jamais partis trop de leur village, de leur ville, et qui nous ont vus arriver. Et ils ont dit, mais comment vous êtes arrivés jusqu'à nous avec ce véhicule-là? Donc ça a été assez extraordinaire. Leur maman, on leur a amené faire des tours de voiture à leur maman. Enfin, c'était dingue.
À la fin du livre, il y a des remerciements. Et il y a une liste impressionnante, il y a pratiquement 2 pages, de noms et de prénoms.
Oui, alors il y a des pays où on ne donne pas les noms non plus. Il y a forcément des. Alors pour la petite anecdote, il y a quelques noms qui ont été modifiés aussi parce qu'on a été accueillis par des gens dans certains pays qui n'étaient pas censés nous accueillir pour des questions politiques. On a eu aussi des anecdotes qui étaient extraordinaires mais qui allaient à l'encontre des mœurs.
Vous avez un peu. Voilà.
Donc on a dû changer. Et puis forcément, on donne le moins possible d'informations sur ces gens-là. Mais eux savent, eux se reconnaîtront. Et voilà. Donc c'est vrai que sans un voyage comme ça, quand on part en deux chevaux à l'autre bout du monde, on ne sait pas ni ce qui va nous arriver, ni comment on va s'en sortir. Et c'est clairement grâce, évidemment, à Rustine et à son capital sympathie, mais aussi beaucoup aux gens qui nous ont accueillis, qu'on a pu arriver à destination.
RCF Saint-Étienne.
C'est pratiquement partout la même chose, comme quoi l'humanité a quand même quelques constantes. Les gens sont surpris, les gens sont étonnés. Les gens vous regardent, les gens vous font des coucous, et puis le contact se fait. Vous aviez choisi aussi de vous nourrir dans les marchés, dans les magasins, avec le tout petit budget que vous aviez. C'est un moyen de rencontrer les gens aussi, de manger, d'aller sur les marchés, de vivre comme eux finalement pendant quelques moments.
Mais bien sûr, on voyage pas de la même manière quand on va à l'hôtel et au restaurant que quand on est à la merci de tout événement qui peut nous tomber dessus. Et nous, c'est ce qu'on recherchait. Évidemment, les plus belles rencontres ont été faites dans des endroits où il n'y avait rien d'autre que quelques personnes autour de nous. Et on partait du principe qu'à partir du moment où il y avait des humains, on pouvait manger, boire et éventuellement être accueilli si besoin.
Oui, s'il fait moins 30, là, ils ne vous ont pas laissé dehors.
Non, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais demandé l'hospitalité, on n'a jamais tapé à une porte. Mais on savait pertinemment que les gens n'allaient pas nous laisser dehors. Et c'est ce qui s'est passé, on n'a jamais dormi dehors, on n'a jamais eu froid. Enfin, on a eu froid pendant la journée, on a eu très froid pendant la journée, mais jamais la nuit, et on n'a jamais pris de risque à ce niveau-là. Et ça, c'est incroyable de voir à quel point les gens sont intéressés, sont curieux. Et nous, on n'a jamais voulu imposer notre présence. Nous, on est des Français qui avons le luxe de pouvoir voyager. On ne voulait pas, entre guillemets, cracher notre bonheur à leur visage si eux n'avaient pas envie de nous voir. On restait quand même, on avait l'humilité de se sentir invité et donc dans leur pays. Et donc on était à la merci du bon vouloir des gens qui étaient sur notre chemin. Et franchement, les rencontres ont été extraordinaires partout, y compris dans les pays où la vie est très austère, où la stabilité politique était partée en miettes, dans les zones claniques où les gens sont armés, ont des tête patibulaire, on a l'impression qu'on allait se faire égorger à chaque ruelle. En fait, on a été accueillis exactement de la même manière par ces gens-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est faire démentir tout ce qu'on peut entendre ici, au quotidien.
Alors peut-être le coup de cœur du lecteur en vous suivant, c'est l'Iran. L'Iran, le bleu de l'Iran, la couleur des yeux. Et puis aussi cette volonté des gens que vous rencontrez au fond, de vous dire d'une manière ou d'une autre, ne croyez pas ce qu'on dit de nous.
Alors, notre première rencontre qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie, c'est la première rencontre, c'est en arrivant en Iran, le premier village. On avait des problèmes d'essuie-glace, on s'est arrêté.
Oui, parce que l'essuie-glace et le chauffage sur la deux chevaux, c'est pas terrible.
C'est pas terrible. Bon, tout le reste fonctionne assez bien, donc ça va, mais non, effectivement, on a eu quelques petites péripéties de ce côté-là. Et donc le monsieur qui est venu en aide pour les essuie-glaces, c'était un monsieur qui avait des dianes. Donc voilà, c'était un monsieur qui était très imposant, une grosse moustache, pas très souriant. Et il s'est penché avec moi sur le système d'essuie-glaces. Et puis en fait, il montrait pas son visage. Et à un moment, au bout de 10 minutes, on parlait pas la même langue, donc on baragouinait comme on pouvait. Et à un moment, il s'est retourné en fait vers moi et il avait les larmes aux yeux, ce monsieur. Il n'osait pas le montrer jusque-là. Et en fait, il nous a dit juste, je vais vous demander quelque chose. Donc avec ces trois mots d'anglais qu'il avait dû faire tourner dans sa tête avant de me les sortir. Il m'a dit, dites à la France qu'on n'est pas des terroristes. Et ça, moi, enfin, tous les deux, ça nous a séché, ça nous a mis dans un état pas possible. Donc on s'est retrouvés tous les trois en larmes. Avec ce gros nounours là, et c'était le début d'une belle histoire parce que après on est resté en Iran autant qu'on a pu, on a renouvelé nos visas, on n'a plus voulu partir, et finalement c'est un pays effectivement qui a été un énorme coup de cœur. C'est un des pays qu'on connaissait pas parce qu'on connaissait certains pays sur la route, mais pas celui-là. On avait tout fait pour pas trop se faire d'idées avant de partir, et la surprise a été extraordinaire.
Le temps passe vite avec vous, c'est 18 mois en compagnie de votre deux chevaux, de Coralie, et puis de ces milliers de personnes que vous allez nous faire rencontrer, nous faire découvrir. Grâce à vous, on voyage. Comment on revient ? Ça doit être... tout le monde vous a posé la question, parce que quand même, vous êtes resté là-bas.
Ben voilà ce que j'allais dire, on revient pas en fait. On est revenu quelques mois pour ramener, pour faire l'accueil de Rustine au retour par cargo au retour en France. On est vite reparti au Laos parce qu'en fait, alors on a jamais considéré que nos voyages étaient des fuites. Je pense pas qu'on fuyait ou qu'on fuit encore. Moi, je fuis rien quand je pars en voyage. Par contre, c'est vrai que le retour a été plus compliqué que ce qu'on a bien voulu. On était plutôt dans le discours. Que de l'adaptation en France comme l'adaptation ailleurs.
Y a pas oui, vous raison. Êtes quand même drôlement adapté pendant ces 8 mois.
Il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas s'adapter à notre retour en France. Et en fait, contrairement à ce qu'on pensait, on a quand même un peu galéré parce que tout est beaucoup plus compliqué en France. Alors, on a la chance d'avoir un pays extraordinaire sur plein de points. Ça, on est bien d'accord. Je ne crache pas dans la soupe, hein, loin de là. Mais c'est quand même un pays qui est compliqué. Partir dans des pays où on prend le temps des choses, où on oublie un petit peu, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est apprécier le moment présent, c'est quand même quelque chose qui, quand on y a goûté, on a du mal à repartir en arrière, quoi. Et donc, on repart. En fait, nous, on est reparti 7 ans là-bas et on est revenu qu'avec des enfants, et on est ravis d'être rentré en France, mais on repart encore là pour un petit moment. Enfin, voilà, on a quand même un pied toujours dans l'itinérance.
Alors, coucou à Coralie, puis coucou à vos deux petits enfants, qui ont 10 d'années maintenant, je crois. Alors, les prénoms, et puis je vais faire le gros cacou, dites-nous quelques mots en laotien, puisque, bien entendu, vous parlez très bien le lao, vous l'avez appris, justement, pour pouvoir parler avec les parents de Coralie. C'est beau, ça?
Oui, alors... Luxai Suvan et Luxao Vatsana. Donc mon fils s'appelle Suvan et ma fille s'appelle Vatsana. Et donc, oui, on a appris la langue là-bas pour plusieurs raisons. D'abord parce que on voulait et particulièrement Coralie se améliorer son lao qu'elle connaissait assez peu avant de partir. Sa famille était en France, elle avait très envie de pouvoir communiquer directement avec le reste de sa famille, notamment ses grands-parents qui ne parlaient pas le français. Et puis aussi parce que vivant là-bas dans des zones très isolées, parce qu'on vivait quand même, on travaillait dans des villages isolés, on pouvait pas faire autrement que de parler la langue. Donc on a appris. Voilà. Donc et puis c'est une langue qui est. Je n'irai pas jusqu'à dire que je parle aussi bien qu'un lao, hein, mais c'est vrai qu'on s'en sort assez vite quand on s'y met, quoi. C'est pas une langue qui est très très compliquée. Et puis surtout les laotiens sont très très indulgents au début de l'apprentissage. Donc c'est des gens qui sont très moqueurs mais avec un cœur énorme. Donc c'est assez agréable d'apprendre une langue dans ce contexte-là.